Avant de partager la parole, je voudrais peut-être donner une pensée que beaucoup de chrétiens n'ont pas, et c'est normal. Lorsque nous nous rassemblons, il y a des chrétiens qui peuvent chanter le deuxième cantique qu'on a chanté tout à l'heure, à savoir que dans mon âme, un beau soleil brille. C'est une grâce. Si vous pouvez chanter « Dans mon âme, un beau soleil brille », si vous pouvez chanter « Que votre cœur est joyeux », vous pouvez le remettre, s'il vous plaît, ce deuxième cantique qu'on a chanté. C'est pas tout le monde, soyons honnêtes, qui peut chanter ce cantique avec beaucoup d'allégresse. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas toujours, toujours en bonne santé spirituelle. Ce cantique, voyez, le refrain, s'il vous plaît. Vous voyez, à ces rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soyons honnêtes. Vous êtes heureux. Si vous avez pu chanter ce cantique, vraiment vous êtes heureux. Il y a des chrétiens qui ont le cœur endurci à cause du péché. Alors là, ça c'est une autre affaire. Ils ne peuvent pas être au bénéfice de la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui peuvent être affligés par une journée difficile, par une contrariété, par une mauvaise nouvelle, par une semaine difficile. Vous êtes d'accord? Et parfois, les prédicateurs, nous qui intervenons, nous arrivons à percevoir spirituellement que quelqu'un peut être en difficulté au niveau de l'écoute de la parole de Dieu, à tel point que la parole de Dieu va servir à rien. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais monsieur, moi je connais Ésaïe 55, et il est dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans effet. Relisez bien le contexte. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la parole ne leur servit de rien. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin, ça ne m'étonnerait pas si je vous dis ça, qui est affligé. Parce qu'une épreuve, une contrariété, ça peut arriver. Ça peut arriver, ne soyons pas durs. Autant il peut y avoir des gens qui ont le cœur endurci à cause du péché, là c'est sûr que la parole de Dieu ne va pas produire. Mais je voudrais juste qu'on se recueille et qu'on prie un instant. Pour libérer par la prière, ceux qui sont peut-être en mauvais état et qui ne profiteraient pas du fait de pouvoir être restaurés par la parole. On ne va pas demander aux gens qui sont dans cet état de se lever, mais on se recueille tous et on prie. On prie, si ça va, priez avec moi, si ça ne va pas, soyez au bénéfice de cette prière. Dieu l'exaucera, croyez-moi. Notre Père, notre Dieu, oui, heureux les chrétiens qui ont pu chanter ce cantique, de pouvoir chanter partout, le cœur rempli de ta joie. Mais tu connais celui qui parmi nous, dans l'affliction, a le cœur brisé, a le cœur fermé. C'est pour cela que nous qui sommes un corps, toi qui nous demandes de prier les uns pour les autres, nous te prions, Seigneur, pour celui qui est affligé, pour celui qui est mal, pour celui qui est troublé, délivre-le, Seigneur. Que par la puissance de ton esprit, le cœur affligé soit délivré. Car tu es un Dieu qui délivre, nous en sommes convaincus, que ta volonté soit faite et que personne ne se prive de ce moment de repas spirituel. Amen. Dans la deuxième épître de Pierre, il nous est enseigné des choses merveilleuses, à savoir le fait que notre piété peut être vivante et saine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous lirons jusqu'au verset 11. Lisons, comme j'aime le dire, comme si c'était pour la première fois que nous lisions ce texte, afin que nous ne perdions pas de l'enseignement. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. S'il y a des textes qui nous indiquent qu'on se sauve avec peine, parce qu'il y a un travail, la peine n'indique pas forcément la peur, mais le travail, il y a des textes aussi qui nous indiquent que notre salut peut être réalisé d'une manière agréable, que la porte nous sera largement ouverte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des chrétiens qui, en saisissant les choses de Dieu, s'appliquent. Vous voyez ? Appliquez-vous. Quatre fois dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de nous appliquer. De nous appliquer à affermir les choses que nous avons reçues. Notre vocation, notre élection. L'élection, c'est notre position. En tant que chrétien, je suis devenu fils de Dieu. Jésus-Christ est devenu mon Père. Voilà, je m'applique à entretenir ma justification. Et après, la vocation, c'est tout ce à quoi je suis appelé. Et justement, ce matin, nous allons voir certains aspects, même s'il nous est demandé de faire des efforts pour conjuguer telle vertu à telle autre vertu encore à telle autre, etc. Pourquoi ? Ben pour être des chrétiens équilibrés. Un chrétien qui n'est pas équilibré est un chrétien qui cause des scandales, qui rend un mauvais témoignage, qui appauvrit le royaume et qui, en fin de compte, n'aidera pas à gagner des âmes, mais plutôt à en perdre. La Bible en parle souvent, c'est très sévère en ce qui concerne les pasteurs, mais c'est également adressé aux chrétiens. Donc, je voudrais que l'on voit quelques textes que Jésus a utilisés d'une manière assez profonde. Vous savez qu'il y a une expression qui est utilisée par le Seigneur Jésus et qui n'est utilisée que par le Seigneur Jésus. Vous savez laquelle c'est ? C'est que lui qui l'utilise. C'est une expression qui revient souvent d'une manière importante. Elle revient sept fois dans la bouche de Jésus et elle nous permet de comprendre justement cette affaire de s'appliquer à affermir notre vocation. Car si Janson disait à juste titre, s'il disait qu'il n'y a pas de demi-enfant de Dieu, il est certain que lorsqu'une fois qu'une personne est passée à la croix par la repentance et par la conversion, elle est justifiée. Lorsque quelqu'un réalise que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, la personne, elle est justifiée. C'est quelque chose de juridique. Spirituellement parlant, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il n'y a pas qu'un aspect à la croix qui parle de justification. Il y a un autre aspect qui parle de sanctification. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus est mort au péché. Alors, des fois, on n'en parle pas souvent des aspects de la croix. Mais il n'y a pas que la justification. Il y a aussi la sanctification, qui est une marche justement dans l'obéissance. Alors Jésus en parle parce que ce que nous voulons justement, c'est que les vertus que Dieu nous donne soient des vertus saines, équilibrées. À quoi ça servirait d'être chrétien et d'avoir une foi qui ne soit pas la foi que Dieu veut que nous ayons? Une foi superficielle, une foi légère, une foi qui ne sert à rien. Il y a des gens qui ne se préparent pas, il y a des gens qui sont légers avec Dieu. Peut-être il y en a au milieu de nous. En tous les cas, la prophétie de Jésus, à savoir que à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait, est évident que beaucoup de chrétiens ne s'appliqueront pas. D'ailleurs, il y a un texte qui me vient à cœur, c'est dans Luc chapitre 11. On va le lire, s'il vous plaît. 12, pardon. Luc 12. C'est la parabole des deux serviteurs. Regardez bien, c'est quand même une parabole qui indique qu'il y a des chrétiens qui sont légers avec Dieu. Ils y croient en Dieu, ils sont d'accord avec la parole. Mais regardez ce qui est dit. Luc 12, on va lire le verset 43. C'est une parabole. Donc une parabole, ce n'est pas une antenne. Une parabole, c'est une image terrestre pour expliquer des vérités spirituelles. Luc chapitre 12, verset 43, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il lui mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Regardez bien ce verset. Le serviteur, donc ça s'adresse au pasteur, mais ça s'adresse à tous les chrétiens, naturellement, qui ayant connu la volonté de son maître, je le relis, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé. Ça, c'est terrible ça. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc ce texte nous dit qu'il y a des gens qui ne se préparent pas, ils n'ont pas envie, alors que c'est une grâce, c'est une invitation. Quand le prophète Amos dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », vous le voyez comme quoi ? Comme un commandement rébarbatif ou vous le voyez comme une invitation ? Vous voyez, c'est une façon de... C'est toute une façon d'analyser ça. Les gens n'ont pas du tout la même réaction. Prépare-toi. Alors, c'est sûr que ça dépend le ton que l'on utilise. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça peut paraître un commandement difficile. Mais quand on connaît Dieu, c'est sûr que quand on connaît Dieu, je peux vous dire que quand vous avez lu le livre en entier, vous voyez une chose qui est sûre, vous voyez une invitation personnelle. Et il y a des gens qui ne se préparent pas, en vérité, c'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre. C'est qu'ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils interprètent tout mal, et dès qu'ils voient un commandement, ça les ébouriffe à la place de les approcher du Seigneur. Alors cette expression justement qui revient plusieurs fois dans la parole de Dieu que seul Jésus utilise, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, et révélatrice justement de chrétiens qui n'ont pas pris au sérieux ses vertus. Sa divine puissance nous a tout donné, tout est disponible, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais à nous de faire notre part, et de faire des efforts, et de s'appliquer. Par exemple, ce matin, pouvez-vous répondre à cette question, comment va votre foi ? Si vous allez voir un docteur, le docteur va dire, comment vont vos yeux ? Si vous avez des problèmes avec les yeux, ah ben ma vue a baissé, comment va votre foi ? Oh vite, vite, faites-moi une scintigraphie, faites-moi une échographie, faites-moi un examen, un IRM. Il y a des gens, dès qu'ils vont chez le docteur, il faut absolument, donnez-moi ci et donnez-moi là. Parce que le corps, il faut s'en occuper. C'est pas vrai ? Mais votre âme, est-ce que ça vous préoccupe, votre âme ? Alors, on va lire le premier texte. Le premier texte, c'est dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, il y a ce premier texte, justement, où une expérience, un homme qui n'est pas encore converti, tenez-vous bien, un homme qui n'est pas encore converti va être dans une mentalité de vérité. Vous savez, dans la Bible, il y a des textes étonnants. Il y a des gens qui ne sont pas encore convertis, à cause de leur humilité, ils sont dans un processus de victoire et de salut. Et ceux qui ont la loi sont dans un processus de rejet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'humilité. Vous connaissez cette histoire, Matthieu 8, 5. Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en Israël, mais je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, de Toulouse, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais, tenez-vous bien, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors, il aurait fallu lire ce texte, c'est là où il y a le texte, les pleurs et les grincements dedans. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les religieux, les fils du royaume, disent à Jésus, oui, il mérite que tu lui accordes ça, parce qu'il aime notre nation, et surtout, il a bâti notre synagogue. Donc il mérite. Et lui, qui n'est pas encore converti, mais qui s'approche, dit « je ne suis pas digne ». Il ne dit pas au Seigneur « tu sais, je suis un étranger, je suis un Italien, là, à Jérusalem, mais j'ai construit quand même une synagogue, ça serait bien que tu fasses quelque chose pour moi. » Je ne suis pas digne. Cet homme, il est dans... comme quoi, voyez, écoutez bien, l'humilité produit une vraie foi. Et les religieux qui sont, eux, dans l'erreur totale, alors qu'ils avaient la parole, ils méritent que tu fasses ceci. Des fois, on est étonné, on voit des chrétiens qui n'ont aucune foi, puisque Jésus dit, va dire à ces religieux, ils n'ont pas dû être contents. Les fils du royaume seront... Alors, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont en vrac, mais ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Et si le Seigneur nous dit, voilà, moi je vous ai tout donné, ma puissance fait que vous pouvez tout recevoir et vous pouvez vivre une vie de piété, comme on l'a lu dans 2 Pierre. Et là, le Seigneur Jésus utilise pour la première fois cette expression, moi qui m'a fait froid dans le dos la première fois que je l'ai lu, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'un chrétien, il peut perdre le salut. Il peut perdre le salut si cette position qu'a si bien présentée Jeanson tout à l'heure de justification n'est pas suivie de sanctification et d'obéissance. Par la foi, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, nous devons nous appliquer à avoir une foi saine. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Une foi saine, je ne rajoute rien à la parole de Dieu. Moi, je suis un petit peu quand même perplexe lorsque je vois tous ces pasteurs, tous ces chrétiens qui... ajoute des choses à la parole de Dieu qui vont au-delà de ce qui est écrit, alors que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle l'esprit de vérité. Et si nous ajoutons à la parole de Dieu, il y a bien la preuve que quelque chose ne va pas. Mes frères et sœurs, il y a aujourd'hui dans le monde chrétien cette doctrine de la sécurité éternelle qui circule, je vous le dis, c'est diabolique. On peut perdre le salut. Si nous ne veillons pas, on peut perdre le salut. Et ça, c'est grave. C'est grave dans le sens où c'est une fausse doctrine, mais c'est grave dans le sens où ça prouve que les chrétiens qui croient ces mensonges n'ont plus le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit et l'esprit de vérité. Ça vous étonne peut-être, mais il faut éveiller. Si Jésus a utilisé une expression aussi sévère, est-ce qu'elle est sévère cette expression? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous dis, c'est quand même une... Moi, la première fois que j'ai lu, j'ai dit, ça, c'est sérieux. Et pourtant, c'est le Seigneur plein d'amour et de miséricorde. Mais justement, cet amour et cette miséricorde et cette grâce doivent être maintenus par des efforts intelligents. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, voyez, la vertu, à la vertu, la connaissance de Dieu. Pas une connaissance subliminale où on ne comprend plus rien. Une connaissance super simple. Dieu, un chat, c'est un chat. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Parce que les temps sont mauvais, vous l'avez entendu dans le don spirituel. Bien sûr que les chrétiens n'ont rien appris, mais mes frères et sœurs, les jours sont mauvais. Et les jours seront de plus en plus mauvais. Mais ceux qui seront à l'abri dans une foi saine seront gardés. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont aisés spirituellement, qui sont dans cette aisance, qui ont la joie. C'est vrai que ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, c'est un cantique que tout le monde ne peut pas chanter. Franchement, tous les chrétiens, soyons honnêtes, ne peuvent pas chanter ce cantique. Mais si vous pouvez le chanter, c'est clair que vous êtes heureux. Le deuxième texte où le Seigneur nous parle des pleurs et des grincements dedans, c'est dans Matthieu au chapitre 13. Là, le contexte, donc, c'est la foi. Est-ce que votre foi va bien? Ne me répondez pas tous en même temps, par contre. Mais répondez au Seigneur et répondez-vous à vous-même. Examinez-vous, dit l'apôtre Paul, pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. La foi, ce n'est pas la foi dans vos prières. La foi, c'est la foi en Dieu. Il y a des gens, ils vont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils se confient dans leur prière. S'ils ont passé un quart d'heure à prier, eh bien, ils sont bien contents que mieux, plus, ils ont plus de foi que s'ils avaient prié 5 minutes. Vous voyez, c'est ridicule. Que vous priez ou que vous ne priez pas, il vous faut mettre votre confiance en Dieu. Mais c'est sûr que si vous arrêtez de prier, votre foi diminuera, ça c'est sûr. Mais une chose est certaine, la confiance, elle est en Dieu. Jésus a dit, ayez foi dans vos prières. C'est pas ça qu'il a dit ? Ah, Nicolas ne me contrarie pas. Hein. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Ayez foi dans vos prières. Non, il a dit, ayez foi en Dieu. Et cette foi qui fera que l'on sera prêt, eh bien, c'est cette foi en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Je ne peux pas ne pas te faire confiance. En vérité, c'est ça. C'est pour ça que le psalmiste se dit, mais ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Quand vous le connaissez, en vérité, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Si vous ne lui faites pas confiance, c'est que, ou alors vous êtes au début de votre marche avec Dieu et qu'il y a des éléments et de l'ignorance qui vous perturbent. Mais si vous marchez depuis longtemps avec Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement que de lui faire confiance. Il est digne de confiance. Dans le deuxième texte, ce n'est pas la foi. Le deuxième texte, c'est une parabole sur un grain de sénévé. Il y a une explication. On va lire verset 36, Matthieu 13, 36. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Vous remarquerez que ça revient souvent, ça. La foule qui se retire, mais les disciples s'approchent. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui s'éloignent, parce qu'après, bon, ils n'ont pas besoin d'explications. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'explications. J'espère que vous en faites partie de ces gens qui pouvaient dire « j'ai besoin d'explications ». Ce n'est pas bon signe si vous n'avez pas besoin d'explications. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui, c'est clair. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Je pense en même temps que, vous savez, quand Dieu a voulu sauver Lot et sa famille, qu'est-ce qu'il a envoyé ? Des anges. Et je pense que ça sera très bien fait, la façon dont Dieu va nous préparer lorsqu'il va nous prendre. Vraiment. Ça, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est pour vous expliquer que le Seigneur, il est parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui commettent des scandales et qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente... Et où il y a des pleurs et des grincements dedans, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faut que vous entendiez, que nous entendions bien ce que signifie cette parabole. Elle est très très simple, mais en fin de compte, le contexte c'est quoi ? Là on n'est plus dans la foi. Le contexte de cette parole sévère de Jésus sur les pleurs et les grincements dedans, c'est l'iniquité. Les fils du royaume qui commettent des scandales et qui pratiquent l'iniquité. Il y a dans l'Église, j'espère qu'ici ce n'est pas le cas, mais enfin dans l'Église, le corps de Christ en général, il y a des chrétiens qui à cause de leur iniquité, à cause de leur éloignement de Dieu, provoquent des scandales. J'ai déjà expliqué, mais je le répète pour ceux qui en ont besoin, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, bon à la limite, ce que je veux dire c'est un peu abrupt, mais c'est son problème. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi, ils s'éloigneront. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à Dieu, ils aiment le monde, le Seigneur nous laissant le libre choix. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu, c'est leur problème, c'est triste comme tout, mais ils s'éloignent. Mais il y a un problème beaucoup plus grave, c'est quand par notre comportement, nous éloignons les gens de Dieu. C'est ça le scandale. Nous, on parle dans le monde parce que c'est un mot qui est utilisé dans le monde. C'est un mot biblique qui a été utilisé par les païens. Mais en vérité, le scandale, c'est un mot qui signifie que par mon mauvais témoignage, j'éloigne les gens de Dieu. Alors là, je peux vous dire que le jour où on va passer devant Dieu, si vous avez un mauvais témoignage, laissez-moi vous dire que quand même, vous avez une sacrée responsabilité. Et je crois que ce texte où Jésus est aussi incisif dans la conclusion, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, devrait nous faire dire, mais est-ce que je rends un bon témoignage ? Alors on ne peut pas être parfait, j'en conviens. Mais quand même, quand on fait une erreur, on la répare. Oui ou non ? Je vous demande pardon, je vous ai mal parlé. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il a besoin de demander pardon. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, c'est pas grave ça. Si vous n'aimez pas le pardon, si vous ne vivez pas dans le pardon, si vous êtes coincé par rapport au pardon, je me fais du souci pour vous. Le pardon, on peut pardonner. Si le Seigneur nous dit pardonnez, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça veut dire qu'on peut pardonner. Et si vous vous gargarisez de dire « Ah moi ça, ça ne passera jamais, ça je le pardonnerai jamais », eh bien laissez-moi vous dire que vous ne croyez pas à l'efficacité du calvaire. Parce que sur la croix, Jésus a tout accompli pour que vous puissiez tout pardonner. Ne me dites pas « Oui, mais c'était à ma place », vous ne savez pas ce que chacun a vécu. On a tous vécu des trucs difficiles au niveau de la relation humaine, oui ou non? On n'a pas été blessé par des amis? Qui n'a jamais été blessé par quelqu'un? On a tous été blessés. C'est les choses les plus dures, ça, d'être blessé par un ami. C'est pas vrai? Mais Jésus a dit, comme nous pardonnons nos offenses. Et beaucoup de gens en sont arrivés à ce drame de vivre dans la misère et dans le scandale, parce qu'ils étaient chrétiens, et en même temps, « Ah, mais je pardonne pas !» Et on a scandalisé des gens. Que quelqu'un ne veuille pas se convertir, vous voyez, c'est vrai qu'on peut convertir personne. Personne ne peut convertir quelqu'un d'autre. Mais quand même, Jésus a dit, vous serez mes témoins. On a un témoignage à donner. Ceux qui commettent l'iniquité et qui provoquent des scandales, et on l'a vu ça dans les églises, il y a des églises entières qui ont été scandalisées. Après, quand on est attaché à Dieu, c'est sûr que... ça fait mal au cœur quand on entend que tel homme de Dieu est tombé dans l'adultère. Ça nous brise le cœur. C'est pas ça qui va nous faire rétrograder. Mais il y a des gens qui sont scandalisés. Et Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc veillons à notre témoignage. Vous voyez cette parole de Jésus-là, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est quand même pour nous faire réfléchir. Comment m'appliquer à faire valoir ma vocation? Je le répète, la vocation, c'est pas telle personne, ah, elle a telle vocation pastorale, tel pasteur, oh, elle a telle vocation sociale. Non, la vocation, c'est tout ce à quoi nous sommes appelés à faire. Troisième texte, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, c'est une autre parabole, c'est la parabole du filet. Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et il pose une question. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Bon, la suite nous révèle qu'ils n'avaient pas tout à fait tout compris. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, on est pareil. Ça, ce n'est pas trop grave d'avoir pas tout compris. Je ne sais pas où vous en êtes, de votre compréhension, etc. C'est sûr qu'il faut des fois des années pour comprendre certaines choses. Là, quel est le contexte de cette parole sévère du Seigneur Jésus-Christ? Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le contexte, c'est l'apparence de la piété. Je suis dans l'Église, mais en fin de compte, je n'ai pas de communion avec Dieu. Je suis dans l'église, mais en fin de compte, je n'ai aucune piété. C'est un des signes de la fin des temps où Jésus dit que les chrétiens, beaucoup, auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Il y a des chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Allez voir, on dit, oh, c'est des chrétiens, c'est sûr, ils vont dans une église. Il se balade avec la Bible sous le bras. Tu peux dire, tiens, ce gars, il est super bien sapé. Il va à l'église, il a sa Bible sous le bras. Quand on chante, d'ailleurs, il connaît tous les cantiques par cœur. Quand le pasteur prêche, il dit Alléluia. Est-ce que ça fait de nous un véritable chrétien, cela? Bien sûr, ça ne fait pas de nous un véritable chrétien. Bien sûr que quand on va à la Bible, quand on va à l'église, on prend sa Bible, etc. Mais il peut y avoir de l'apparence. Et Jésus en parle. Et s'il utilise cette phrase aussi sévère, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous faire réfléchir. Est-ce que j'ai que l'apparence de la piété? Ça, c'est une question à laquelle il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais c'est quand même un texte qui en parle. Parce que quand même, moi, je ne sais pas si vous soupçonnez le désarroi qu'il va y avoir 30 secondes après sur la terre, surtout parmi les chrétiens qui ont été dans l'apparence de la piété. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passerait si Jésus revient dans les 30 secondes qui suivent et que, imaginons que je me retrouve tout seul à prêcher. Imaginez-vous dans quel état je serais. C'est ce qui va arriver. Que l'on soit dans l'église ou ailleurs, parce que Jésus tient compte du décalage horaire, mais de deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux dans un lit, un sera pris, l'autre laissé, ce qui prouve que le salut est strictement personnel. Vous ne pouvez pas imposer à votre conjoint d'être pieux, vous ne pouvez pas imposer aux gens les plus proches de vous, parce que quand Jésus utilise cette parole de deux dans un lit, ça montre bien la proximité, l'intimité qu'il peut y avoir entre deux personnes, un homme et une femme, je le dis pour que ce soit bien clair. C'est pas pour cela que la personne peut sauver son conjoint. C'est quelque chose de personnel. La piété, c'est quelque chose que je développe dans une réunion comme celle-ci, où là, avec mes frères, avec mes sœurs, j'ai prié ce matin, j'ai demandé au Seigneur qu'il me parle, même si vous venez pour la première fois, mais ça s'adresse à vous. Vous savez, moi, il y a un verset qui m'a bouleversé quand je me suis converti, un verset que j'aurais dû connaître depuis longtemps d'ailleurs, c'est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras toi seul ». C'est le premier commandement. Lui seul. Ouais, je voulais voir si vous réagissez quand je fais volontairement une erreur. Et tu le serviras lui seul. Il n'est pas dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu si ton mari est un bon chrétien. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu si ton voisin est un bon chrétien, si ton pasteur est un bon pasteur. La parole de Dieu, elle est formelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est quelque chose de personnel. Et ne commencez pas à vous justifier en disant, oui, celui-ci, il a un mauvais témoignage. Et quoi, ça vous autorise à ne pas vous convertir? Ça vous autorise à ne pas faire la paix avec Dieu? De voir qu'un chrétien a un mauvais témoignage? Et beaucoup de chrétiens auront eu l'apparence de la piété à cause de ces raisonnements qui ne servent strictement à rien, de ces raisonnements qui les auront empêchés, comme on l'a lu dans le premier texte, de s'appliquer à affermir leur vocation et leur élection. Dans l'Église, autant il y a un aspect corporatif, autant comme tout à l'heure on a prié pour celui qui est peut-être en difficulté et on doit le libérer de cette lourdeur. Et c'est ça l'Église aussi, on a besoin de prier les uns pour les autres. Autant une chose est sûre, c'est que notre piété et notre passage devant Dieu sera quelque chose de personnel. D'ailleurs, quand Jésus parle aux Hébreux et qu'il fait tout ce qu'il faut pour les ramener, et je vous ai fait ceci, et je vous ai fait cela, et vous n'êtes pas revenus, 5 fois, Dieu montre tout ce qu'il a dû faire pour les ramener. Ça nous parle de nos épreuves que Dieu est parfois obligé de provoquer pour nous ramener à lui. Et à la fin, il termine en parlant au singulier, « Et toi, prépare-toi ». On voit bien que même si Dieu parle à la foule, au monde entier, à un moment donné, l'invitation, elle est personnelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai que Dieu parle à un auditoire, mais à un moment donné, il faut bien que nous comprenions que l'invitation, elle est personnelle. Est-ce que j'ai de l'apparence de la piété? Est-ce que je suis un hypocrite? Il faut que je le règle, ça. Il faut que je le règle. Est-ce que ma foi, elle est vivante? Si vous ne lisez pas votre Bible, vous perdrez la foi. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Je vous avais raconté l'histoire de ce pasteur qui s'est passé, je crois, il y a une vingtaine d'années. Cette sœur qui se plaignait, elle avait perdu ses lunettes. Et le pasteur est allé la voir chez elle, et il lui parlait de sa piété. Est-ce que vous lisez votre Bible? Ah oui, tous les jours, monsieur le pasteur. Vous pouvez aller la chercher, on va lire un vers passage ensemble. Et quand elle ouvre, ah, mes lunettes! Ça faisait des mois qu'elle les avait perdues. 5 commentaires. Alors, on n'est pas là pour juger. Mais ne nous étonnons pas que beaucoup de chrétiens vont perdre la foi s'ils ne lisent pas la Bible, s'ils n'ont pas envie de lire la Bible. Alors, est-ce qu'on peut faire un reproche? Non. Imaginez-vous que votre fiancé vous écrive. La personne que vous aimez le plus, c'est qui la personne que vous aimez le plus? Isabelle, c'est qui la personne que tu aimes le plus? La personne qui vous aime le plus, vous recevez un courrier. Je reçois un courrier de la personne que j'aime le plus. Bon, je le lirai demain. Et demain, vous direz, oh, ben, je le lirai la semaine prochaine. On pourrait quand même remettre en question l'amour que vous avez pour cette personne que vous aimez le plus. Je me demande comment vous aimez les autres. Mes frères et sœurs, quand on aime le Seigneur, c'est parce que, c'est, comme disent les chansons, même si c'est loupé sur deux cantiques, il avait quand même raison. Quand on aime, on a besoin de communion. Et tous ces textes sévères, et même temps pleins d'invitations, pourraient être présentés d'une manière culpabilisante. C'est clair que moi je pourrais utiliser ces textes et présenter un sermon très 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 sévère. Ça sert strictement à rien. Ce qui sert, c'est que de comprendre que ces paroles de Jésus qui étaient pleines de grâce, c'est notre Seigneur qui parle. C'est pas l'apôtre Paul, c'est pas l'évangéliste Matthieu, c'est notre Seigneur. C'est pour que nous comprenions que on a tout à gagner à développer une communion avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Loin de moi la pensée de culpabiliser quelqu'un. La pensée de Dieu, c'est de développer une communion extraordinaire. Voyez, le quatrième texte, je ne sais pas si on aura le temps de le faire tous, oui peut-être, Matthieu 22. Dans Matthieu 22, c'est une parabole encore. Oui, c'est des paraboles. Vous aimez lire les paraboles? Ouais. La parabole du festin des noces, c'est une parabole. Jésus invite tout le monde, les riches, les pauvres, les notables, les gens au bord du chemin. Il invite tout le monde. Tout le monde, les gens s'excusent, les gens n'en veulent pas. C'est compliqué. Les gens n'aiment pas Jésus. Matthieu 22, verset 9. « Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, quatrième texte où il nous est parlé des pleurs et des grincements de dents, c'est le problème de la sanctification. Le contexte, c'est la sanctification, c'est pas l'invitation. Cette parabole, à juste titre, les évangélistes l'utilisent pour parler de l'invitation. Et ils ont raison, Dieu invite tous les hommes. Mais les chrétiens, quand ils sont une fois affermis, ils comprennent que cette parabole n'est pas liée à l'invitation, elle est liée à la sanctification. C'est-à-dire le nombre de gens qui rentrent dans le royaume de Dieu. Il y a plein de gens qui rentrent, oh c'est bien, ça me fait du bien, ce sont des gens sains, et sains, j'espère. Et ça me fait du bien, ils ne sont pas grossiers, ils ont de la moralité. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans le royaume de Dieu parce que c'est sympathique, parce que les chrétiens normaux sont des gens agréables, etc. On se plaît avec eux, alors ils rentrent, comme moi je dis, par la fenêtre. Ils ne rentrent pas par la porte, Jésus a dit, je suis là. Ils rentrent par la fenêtre de la sympathie, ils rentrent par la fenêtre de la communion fraternelle. Ils rentrent, mais ils rentrent comme cet homme. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de se sanctifier. Alors bien sûr, ça ne va pas se présenter qu'au ciel un jour se pointe quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça n'arrivera pas. C'est une parabole. Dans une parabole, s'il y a des vérités, il y a une vérité qui ressort. C'est comme dans la parabole des 10 vierges, quand il est dit « achetez de l'huile ». Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit? Bien sûr que non, mais ça indique autre chose. Et là, c'est pareil. Il y a un homme qui a accepté l'invitation, mais il n'a pas accepté la condition. Et la condition, c'est la robe blanche. Et la robe blanche nous parle de sanctification. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Au dernier chrétien de l'église de Laodicée, Jésus dit, je te conseille. Il ne nous oblige pas. On est dans l'église du Seigneur, on n'est pas dans une secte où on manipule et on contrôle les gens. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Jamais. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc le chrétien doit s'appliquer à vivre dans la sainteté. Et quand on parlait tout à l'heure de l'apparence de la piété, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Parce que quelqu'un pourrait me poser la question, mais justement, ils en renieront ce qui fait la force. Mais qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Eh bien, c'est la sainteté. Un chrétien qui marche dans la sainteté, il a une véritable piété. Alléluia. Voilà, ça c'est sain, ça c'est malsain, je ne le touche pas. Voilà, c'est à chacun de nous. Souvent, moi, j'ai déjà répondu à cette question. Souvent, on me dit, mais monsieur Gault, est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut aller sur Internet, est-ce qu'on peut regarder la télé, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Et moi, je prends maintenant l'image du couteau. Un couteau. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, un couteau? Est-ce que c'est bon, un couteau? Oui, c'est bon. Mais ça peut être très mauvais. Et c'est pareil pour tout. Soyons intelligents, mes frères et sœurs. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut regarder, des choses qu'on ne peut pas regarder. Et je pense que quelqu'un qui a l'esprit de vérité dans son esprit, il le sait. Si vous ne le savez pas, eh bien, suppliez Dieu, montre-moi, Seigneur. La Bible est catégorique, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si vous avez la crainte, le respect de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le respect profond de Dieu. Un respect profond. Quelqu'un qui a le respect de Dieu, Dieu le conduit. Et il va regarder quelque chose, il va dire, non, ça c'est pas bien, je regarde pas, ben, je regarde autre chose si j'ai le temps. Vous voyez, c'est ça, ne jouons pas les comédiens, ne jouons pas les hypocrites. Dieu a un problème avec les hypocrites très grave, soyons vrais. Ça, je ne peux pas le regarder. Et puis, ça dépend de notre emploi du temps à chacun. Quelqu'un qui est à la retraite a évidemment un petit peu plus de temps à passer, peut-être à regarder certaines choses, que quelqu'un qui est en pleine activité. Ce n'est pas à moi de dire à quelqu'un, « Bon, mais Jérôme, vous priez, oui, quand même, vous êtes un homme de Dieu, priez 2 heures. Vous, Nicolas, 3 heures, parce que vous faites des progrès, etc. » C'est pas à moi. Non, mais vous savez, on a vite fait de devenir des dirigistes. Et je crois que ça, ce n'est pas bon. Je crois qu'un chrétien... il sait ce qu'il doit faire. Parce que lorsqu'on voit ces textes sévères, c'est d'une immense sévérité. Mais en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir l'amour de Dieu qui nous arrête. Vous savez, l'amour, ça peut arrêter quelqu'un. Oui ou non ? Moi, je crois que je me souviens, quand je pense à cet amour qui arrête, je me souviens d'une expérience que j'ai faite lorsque mon fils Jonathan, il avait 3 ans. On était à Font-Romeu, mais c'est vrai, parfois, pourquoi Dieu crie fort ? On était rentrés dans une pharmacie pour acheter 2 ou 3 bricoles. Et puis, ça s'est passé à une fraction de seconde. Mon fils Jonathan s'est tourné vers la rue, la porte était ouverte. Il est parti en courant dans la rue. Et la rue était très, très, très exiguë. Et moi, en même temps qu'il partait, mais ça s'est passé à une fraction de seconde. J'ai entendu un car qui arrivait. Un car qui arrivait. Et j'ai hurlé, « John !» Mais j'ai hurlé. Si je hurle comme ça, on aura un procès. J'ai hurlé, « John !» Et John, il s'est arrêté, pétrifié, et le car est passé à 50 cm. Et moi, j'étais là, j'avais envie d'hurler, maintenant, merci Seigneur, on s'est regardé avec ma femme. Et pourquoi je dis ça ? Parce que parfois, il y a des textes, on sent qu'une voix crie. C'est écrit dans la Bible, une voix crie. Vous croyez que quand Dieu crie, c'est parce qu'il a besoin de crier ? C'est nous qu'on a besoin. Quand il dit, une voix crie, préparez le chemin. Ce matin, peut-être que dans votre cœur, il y a la voix de Dieu qui crie. Ce n'est pas une question de décibels, c'est une question d'ouverture de cœur. Seigneur, tu me cries ces choses. Il faut que je bannisse cette foi superficielle, même si je suis entouré de gens qui sont légers. Il faut que je bannisse cette affaire d'hypocrisie, d'iniquité, de scandale. Il faut que je règle cette affaire de sainteté. Quand même, la sainteté, c'est une corvée ou c'est une grâce de marcher dans la sainteté ? C'est quand même une question qu'on peut poser. La sanctification, est-ce que c'est un fardeau, une lourdeur, ouais, j'en ai marre, ou est-ce que c'est un honneur de marcher près du Seigneur ? Mais quand même, un chrétien qui est né de nouveau, on a le droit de lui poser cette question. Quand vous voyez certains chrétiens qui considèrent certains commandements, ouais, on ne peut pas faire ça, ben faites-le ! De toute façon, vous le ferez, un jour ou l'autre. Vous savez, quand vous ne voulez pas régler un truc... Judas, il n'a pas voulu régler le problème de l'amour de l'argent. Pourtant, moi, je trouve qu'il avait un bon pasteur, Judas. Un très, très bon pasteur. Il n'a pas voulu régler le problème de l'amour de l'argent. Et comme je l'avais lu dans un bouquin qui expliquait ça, le pasteur, il disait, ce que vous ne voulez pas perdre, ça vous perdra. Jésus ne l'a pas forcé, il aurait pu le forcer. Judas, tu sais le problème que tu as, mais Judas, prends rendez-vous avec moi. Jésus ne l'a pas obligé. Vous voyez comment c'est... Est-ce que Jésus aurait pu lui dire, « Judas, tu as un problème grave ?» Il ne l'a pas fait. On continue. On va terminer avec le cinquième. Dans Matthieu 24, ça c'est peut-être un peu... Oui, Matthieu 24, c'est un petit peu plus sévère cette fois-ci parce que ça s'adresse au pasteur, surtout, enfin au pasteur, aux responsables d'église, aux anciens, aux évêques, à tous ceux qui ont la charge d'enseigner. Parce qu'il est dit, Matthieu 24, verset 45, il est parlé de ses serviteurs. Regardez, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ce n'est pas une question de nourriture physique. Merci Seigneur pour le pain et les haricots. Mais c'est une nourriture spirituelle, ce que je suis en train de faire. le maître a établi des gens, ces gens, ses serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Lorsque quelqu'un fait chanter, eh bien, il nourrit aussi l'Église. Vous voyez ? C'est pour ça que lorsqu'on fait chanter, il faut se préparer. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Voilà, il y a toujours une joie pour ceux qui font les choses d'une manière intelligente et saine. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre, alors battre, c'est pas physiquement, là c'est battre verbalement. Parce que vous savez, on peut faire du mal par des paroles, plus que peut-être par des coups. C'est vraiment un verbe qui signifie frapper verbalement. Ses compagnons, s'ils mangent et boivent avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dont le contexte, vous l'avez compris, c'est l'hypocrisie. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Seigneur, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans l'église locale, puisque nous sommes concernés par cette assemblée. Dans l'église locale, le Seigneur attend qu'il y ait beaucoup de sincérité. Parce que l'hypocrisie, c'est compliqué ça. Le Seigneur, il attend dans l'église que chacun soit fidèle. Est-ce que ça vous préoccupe ça? Est-ce que je suis fidèle dans ce que Dieu me demande? Vous devriez répondre au Seigneur. Déjà vous-même, peut-être, si vous avez besoin. Mais voilà, le contexte de cette parabole, où on voit un verdict aussi grave pour ceux qui vivent dans l'hypocrisie, nous, ce qui nous préoccupe, bien sûr, ce n'est pas de parler de l'hypocrisie, on sait tout ce que c'est. Mais est-ce que je suis fidèle? Le Seigneur m'attend peut-être dans tel service. Le Seigneur m'attendait. Il y a un cantique, un vieux cantique qu'on chante de temps en temps, c'est « Dieu peut-il compter sur toi ?» Vous le connaissez ce cantique? On ne le chante pas souvent. « Dieu peut-il compter sur nous ?» Le Seigneur, il nous a bénis et en même temps, il nous donne des talents. Comme quand moi j'ai senti cet appel au ministère, moi je ne voulais pas, j'ai supplié Dieu pour ne pas rentrer dans le ministère. Bon, j'ai lutté, parce que c'est ce que Dieu me demandait. Mais chacun d'entre nous, nous avons la joie et le devoir de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'Église? Et si tout à l'heure, par exemple, et je le disais, vous allez comprendre pourquoi je dis certaines choses parfois pendant les annonces, si je me suis autorisé à dire, par exemple, aux jeunes étudiants, vous avez vu la cotisation de la CAFEJ, c'est 5 euros. Et franchement, je le fais dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que je sais que Dieu peut nous éprouver aussi dans des choses simples, celui qui est fidèle dans les petites choses. Vous allez me dire, mais 5 euros, moi j'ai pas 5 euros à donner à la CAFEJ. Oui, mais peut-être que c'est ce que Dieu te demande. Ça commence comme ça, parce que, n'oubliez pas, on n'est pas dans l'atmosphère, on est sur la terre, et on doit être pratique. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai pas envie de rester collé quand tu vas revenir. Moi, j'ai pas envie de connaître les pleurs et les grincements dedans. Moi, je veux connaître la gloire. Dieu attend, écoutez-moi bien, Dieu attend que vous soyez fidèles. Et ça, ce n'est pas à moi de vous dire, fais ci, fais ça. C'est à vous à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur vous le montrera. Comme je l'ai dit l'autre jour, Dieu, Jacob croyait lutter contre son frère, parce que ça crée, quand ça ne va pas, ça crée des conflits. Et en vérité, il luttait contre qui? Qu'est-ce que j'avais dit? Il luttait contre Dieu. Et mes frères, je voudrais que nous soyons intelligents. Vous voyez, cette intelligence, plutôt que d'être abasourdi par des paroles sévères. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a un Dieu vivant qui, je l'espère, est votre Père et qui vous dit, j'attends que tu sois fidèle dans la chose que je t'ai demandée. Et peut-être toi, jeune étudiant, c'est peut-être cette semaine, dire, ben, je vais cotiser moi les 5 euros. Écoutez, si vous ne les avez pas, je vous les donnerai. Mais c'est le principe. Ne venez pas tous me voir quand même après. Mais c'est le principe. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe. Seigneur, je vais être fidèle. Oui, tu as mis dans l'église des serviteurs, parce qu'on n'est que des serviteurs. Moi, je suis qu'un serviteur, votre serviteur. Tu as mis des serviteurs pour nous donner la nourriture au temps convenable. Si je me suis tenu devant Dieu et si j'ai écouté le Saint-Esprit, ce que je vous donne ce matin correspond à cette nourriture convenable. Alors Seigneur, eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord pour relire, tiens, ces textes. Je vais les relire, ces textes, ce soir, peut-être toute la semaine. Je vais relire ces saints textes sur les pleurs et les grincements de dents. Et Seigneur, on va travailler ensemble. Parce que moi, il est hors de question que j'ai une foi superficielle. Il est hors de question que je vive dans l'iniquité, le scandale. Il est hors de question que je vive dans l'apparence de la piété. Il est hors de question que je vive dans l'hypocrisie. Moi, Seigneur, je veux être un serviteur fidèle. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est la présence de Dieu. Seigneur, j'aime ta présence. On va le chanter. J'aimerais qu'on termine avec ce petit cœur. Seigneur, c'est ta présence que je veux. Peut-être que mardi soir, je ne pourrai pas venir à la réunion de prière, mais tant mieux si vous pouvez venir. Mais je veux ces moments de présence. J'aime ta présence, Seigneur. Vous pouvez le dire, j'aime ta présence ?